Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 4 décembre 1997 à Saint-Jeudard.
Du Toanéon, il y a un dépassement. Je dis ça parce qu'au fond, nous sommes, nous aussi, très facilement influencés par ça. C'est pas aussi commode que ça de redécouvrir la distinction qui n'est pas une séparation. Et ça, c'est la vie de l'intelligence. L'intelligence est capable de dépasser l'expérience. La séparation, je la touche par l'expérience. Tandis qu'au contraire, la distinction est un au-delà. C'est déjà l'intelligence qui saisit au-delà de la réalité existante ce qu'elle est. Plus intime d'elle-même. C'est là où se situe maintenant ce que Aristote a découvert, les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments montrent les 10 facettes ou les 10 déterminations de ce qui est. Je ne peux pas m'arrêter puisque ce n'est pas ça qu'on cherche, mais c'est important de voir que quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» je ne peux m'arrêter à aucun des prédicaments. Les prédicaments se situent au niveau de l'étant. C'est ce que Heidegger n'a pas saisi. Et c'est vrai que les prédicaments tournent autour de la substance première et de la substance seconde. Lousia. Je vois en effet, quand je regarde Pierre, que Pierre exprime le ceci auquel est attribué. Pierre, il est homme. Pierre, il est intelligent. Il peut l'être. Pierre, Jacques ou Jean, non. Pierre, Arthur, Adolphe, et la laïcisation des apôtres, et ainsi de suite. Il est intelligent, il pèse tant, carte de visite, il a telle taille, ça ne demande pas le poids parce que le poids change. Ça pourrait la même chose. Sauf quand on vieillit, ça diminue. Comment ça se coupe ? Des gens qui étaient grands, à l'époque on les a connus quand ils avaient 35 ans ou 40 ans, puis ils se tassent. Alors c'est ça, voilà la courbe de descente. Puis il a telle relation. Telle charge, telle fonction, il s'est fini par là, dans une communauté, petite, il y a le supérieur, il y a le directeur, puis il y a les conseillers, et puis il y a tous les autres. Il faut que vous redécouvriez ce que représente la table des 10 prédicaments. Je vous dis, je signale. Et l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, dépasse les prédicaments. Mais il faut comprendre que déjà, les prédicaments regardent l'homme dans ses 10 déterminations. Puis un au-delà des déterminations, l'action. Sa capacité de bâtir. Sa capacité d'agir, d'influencer les autres. Il y a la question du temps et des lieux. Et c'est intéressant de réfléchir sur les 10 prédicaments comme les 10 attributions, les 10 déterminations qu'on peut donner à Pierre. Pas à l'araignée, mais à Pierre. l'avion, et ainsi de suite. Et dans les dix prédicaments, il y a deux prédicaments tout à fait uniques. Et premier, le sujet Pierre qui existe. Description qui va plus loin. Mais descriptif. Et les prédicaments restent à un niveau descriptif. Au niveau de l'attribution, c'est descriptif. Or, la métaphysique cherche ce qui est premier dans l'ordre de l'être, au-delà de la description. C'est l'intelligence qui saisit le principe, ce qui est premier dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la détermination selon la cause formelle et par induction. Je découvre ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que je découvre ces deux modalités premières de la substance, mais qui sont bien deux modalités, le sujet et l'attribution essentielle. Première recherche que je fais. Homme. de l'être. Elle saisit l'universel. Alors ça, c'est très important à bien saisir. L'universel, c'est la nature que je saisis, par genre et différence spécifique. Je suis donc au niveau d'une recherche quantitative. Le TOTI-NI9. Ça, c'est logique. Tout le monde, sans être philosophe, peut saisir le genre et la différence spécifique. Et je saisis d'abord ce point de vue générique de l'homme. C'est un animal. Mais c'est un animal particulier, différence spécifique. La différence spécifique rationnelle. Donc, quand je définis l'homme en logique, pas en métaphysique, je définis l'homme animal, raisonnable. Ça, tout le monde peut le saisir. Vous êtes au premier niveau de la connaissance universelle. C'est l'intelligence qui organise, qui définit. La définition est dans l'ordre logique. C'est ce que la scolastique a gardé. Elle a gardé la définition. Genre et différence spécifique. Mais définir l'homme comme animal et comme raisonnable, ce n'est pas une définition philosophique, c'est une définition logique. Je peux définir l'homme en philosophie du vivant. Et définissant l'homme en philosophie du vivant, je dis l'homme implique une âme et un corps. Je saisis l'âme comme source de vie et de vie humaine. Or, la vie humaine, à la différence de la vie animale, c'est que c'est une vie qui implique la découverte de l'esprit, et donc de l'âme spirituelle. Les scolastiques disaient bien, à la suite d'Aristote, qu'il y a une âme animale, c'est-à-dire que l'animal, le vivant, a aussi un aspect générique qui vient de son corps, cause matérielle. Le genre se prend de la matière. Et puis, un aspect de définition, un aspect de différence spécifique, raisonnable. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal ? C'est qu'il a une âme spirituelle. L'animal n'a pas d'âme spirituelle, mais il a une âme, principe de vie. Je suis là au niveau de la philosophie du vivant, et je définis l'homme, un animal, comme une réalité vivante qui implique un corps et une âme. Une âme qui est source de vie, qui est la détermination propre de l'homme en tant que vivant. Et puis, troisième point, qu'est-ce que c'est que l'homme au niveau métaphysique ? Qu'est-ce que c'est que l'être à l'homme au niveau métaphysique ? Quelle est cette détermination radicale de cet être qui est l'homme ? Je dirais qu'il y a en lui un principe d'être, sa substance. Et je peux, et dans le monde, et dans le climat d'aujourd'hui, je crois qu'il est très important de reprendre la philosophie des dix prédicaments. Et on peut les développer dans une phénoménologie, c'est-à-dire un aspect descriptif de l'homme. L'homme a une âme, c'est sa source. Quelle différence y a-t-il entre l'âme et la substance? La substance est au niveau de l'être, c'est pas au niveau de la vie. Tandis que l'âme est au niveau de la vie. Et je pourrais dire, une fois que je découvre la substance au niveau métaphysique, je peux dire que ma substance, c'est mon âme. Je n'ai pas une substance distincte de mon âme, non. La substance, ma substance, source de mon être, c'est mon âme. Mais, comprenons bien, quand je dis ça, je regarde l'âme du point de vue de l'être. Qu'est-ce qu'est la détermination fondamentale en moi? Et c'est mon âme, c'est sûr. J'ai découvert l'âme en philosophie du vivant. Hein. C'est une analyse de mes déterminations. Oui, c'est ma carte d'identité métaphysique. Chacun d'entre nous, nous avons ces dix prédicaments. Et qui est ma carte d'identité métaphysique. Je suis un être unique. Je ne suis pas dans une série. Si je ne suis plus un être dans la communauté humaine, il y a quelqu'un qui disparaît. Et il n'est jamais remplacé par le même être. Nous avons cette originalité substantielle au niveau de notre être. C'est tout le problème de l'individualité de l'homme. Il est unique dans son être. Et quelle est la détermination fondamentale de cette individualité et de cette détermination spécifique. Je suis un être spirituel. L'être humain est distinct de l'être de l'araignée. Métaphysiquement parlant, l'araignée a son être au niveau spécifique et individuel. Et l'araignée, quand elle meurt, il ne reste plus rien. Il reste le cadavre de l'araignée. Vous l'avez déjà vu, le cadavre de l'araignée? C'est pas très beau. On voit les petites pattes, c'est avant tout ça. C'est comme quand on regarde le cadavre d'un être humain. de l'âme et du corps, qui est atteinte par la mort. Et la mort est la séparation de la mort. Oui, le problème de la mort est au niveau de la philosophie du vivant. Est-ce que l'être mort, meurt ? Et pour des quantités de philosophes modernes, je verrai le primat de la négation dans l'ordre de la vie qui vient détruire l'être humain. C'est vrai que la mort touche l'être humain, mais la mort est premièrement au niveau de la vie humaine. Elle détruit la vie humaine, mais elle ne détruit pas l'être humain, l'être de l'homme. photographie. C'est la photographie de mon grand-père. Ah, sa photographie fait que je le vois. Je l'ai vu comme ça. En effet, je l'ai vu comme ça. Mais dans le temps, maintenant, il n'est plus comme ça. Il est comme ça que dans la photographie. Il est universel que dans mon intelligence. Vous voyez les modalités différentes de laquelle l'individu existe. Il peut exister intentionnellement. Exister intentionnellement, c'est exister d'une manière universelle. Il existe artistiquement dans la photo. Un mode nouveau, parce que les anciens n'avaient que les portraits faits à la main. On a une manière d'exister beaucoup plus extraordinaire, qui touche plus l'individu. Parce que l'art prenait simplement quelque chose de typique de lui, de particulier. Mais il existe quand même d'une manière artistique. Pourquoi on aime d'avoir le portrait de ceux qu'on aime? Pourquoi aime-t-on d'avoir la photographie de celui qu'on aime? On craint de ne pas avoir la photographie de la Vierge Marie. C'est vrai. Oui, on mettrait la petite Vierge Marie à côté de la petite Thérèse. La petite Thérèse, on a des photographies étonnantes de sa jeunesse. Si on avait su qu'elle serait docteur de l'église un jour, on l'aurait photographiée tous les jours. Mais elle était dans la pensée de Dieu, docteur de l'église. Tout de suite, Dieu l'a vu dans sa gloire. C'est comme ça que Dieu nous voit en premier lieu, dans notre gloire. Avant que notre gloire soit notre bonheur. Oui, tout ça pour essayer de comprendre ce que c'est que l'être. L'être est au-dessus de ses modalités. Parce que toutes ces modalités existent, mais de telle ou telle manière. J'existe, c'est vrai, dans la photographie, une existence intentionnelle, artistique, qui est une copie. J'existe dans l'œuvre artistique d'un ami qui avait mon portrait. Je me souviens, c'était le père Abbé de Notre-Dame cistercien. Ses amis lui avaient donné son portrait. Or, il était encore vivant. Alors, il avait mis au grenier de son abbaye. Elle était bien là. Un jour, je lui ai dit, j'aimerais te voir votre portrait, parce qu'il paraît qu'il existe au grenier. Là, il a été le chercher. Je lui ai dit, j'aime mieux vous voir directement que votre portrait. Mais je comprends que quand on peut voir quelqu'un, le portrait donne quelque chose. Quel est l'être du portrait? C'est l'être d'une œuvre artistique. Et cette œuvre artistique m'intéresse parce que j'aimais cet homme. Alors j'avais comme ça une possibilité dans ma mémoire, dans mon imagination, de me reposer. On aime d'écouter la voix de quelqu'un qui est mort. Et c'est la même chose, la technique me permet cela aujourd'hui. Elle ne permettait pas avant. Alors je peux arriver en mêlant tout ça, arriver à faire oh. Il reste au milieu de nous, comme une statue, et puis il parle. Je presse sur un bouton, il parle. Une momie. Vous voyez, tellement pour nous la causalité matérielle est importante. Parce que tout ça, c'est la matière. C'est du côté matériel, c'est du côté de l'individu. Ce qui est important, c'est que son âme existe encore et que l'amitié que j'ai avec lui peut demeurer. Mais elle ne demeure pas avec le portrait. Voyez, saisissez ça par l'expérience. Au fond, l'expérience que j'ai de l'amitié de quelqu'un me fait comprendre que c'est son âme qui me donne la meilleure des présences et la plus vraie. Et c'est pour ça, si je comprends que ma substance métaphysique, c'est mon âme, c'est merveilleux. Mon âme spirituelle, créée par Dieu dans mon corps, au moment de la mort, quitte mon corps. Et elle est à l'état pur. Alors c'est Platon qui a raison là, vous voyez. J'ai l'âme en soi. Mais c'est pas Platon qui a raison, parce que Platon considère l'âme en soi avant l'individu. Alors que l'âme en soi est après l'individu. C'est la relique divine.
Vêtu de ce mode particulier, donc je ne saisis pas ce qui est
mon âme, ce